Étienne l'a dit, il a vécu plusieurs déceptions dans son parcours au niveau de l'emploi, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il ne se fait plus d'attente. C'est quelque chose qui peut paraître peut-être extrême comme façon de penser, mais ça a vraiment été sa formule gagnante à lui pour être bien aujourd'hui. Je m'appelle Audrey Metcalf et j'ai la fibrose kystique. À cause de ça, on me dit souvent que je suis une source d'inspiration, que je suis donc courageuse. Bien, j'ai eu envie d'inviter des gens qui vivent avec une différence et qui, eux aussi, se font souvent dire « je sais pas comment tu fais ». Aujourd'hui, je reçois Étienne Gravel, reporter, chroniqueur, professeur de musique, conteur. Il porte bien des chapeaux maintenant, mais trouver du travail et avoir accès aux mêmes choses que tout le monde avec sa cécité, ça a représenté et ça représente encore parfois un défi. Salut Étienne.
Salut.
Contente que tu sois là.
Ouais, moi aussi, je suis contente d'être là. Merci, oui, merci de l'invitation.
Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je veux savoir à quel moment tu as constaté que ça allait être possiblement difficile ou plus difficile, en fait, pour toi, là, au niveau du travail?
C'est assez jeune, en fait. C'est quand je... au début de l'adolescence, quand tout le monde se trouve... tous les chums se trouvent un travail. Puis moi, ben je sais, mais ça fonctionne pas. C'est là que j'ai réalisé là, que ça allait être un petit peu plus compliqué là, dans ma situation.
Qu'est-ce que tu veux dire, ça fonctionne pas?
Bien, c'est que... tu sais, j'essaie, je donne mon nom, mais... les gens préfèrent engager mes amis, puis ils disent, ben toi, ça fonctionnera pas. Même, une fois, je me souviens, on avait voulu faire un lavato quand on était jeune, puis on avait été voir le garagiste, puis il avait dit, OK, ça marche pour le lavato, mais sans lui.
Ben non.
Ouais. Il y avait peur que je brise les voitures. Les gens pensaient que j'avais. Surtout, dans ce que j'allais voir, c'est quelque chose que moi, j'étais. Dans ma tête, je pouvais faire, tu sais, mais. Non, c'est les gens...
Décidaient pour toi qu'est-ce que tu étais capable ou non de faire, finalement.
Oui, exact.
Mais est-ce que ça paraissait... Tu sais, parce que pour qu'il soit capable de dire « Ah, ben lui, on le veut pas », c'était-tu... T'sais, est-ce que tu avais une canne blanche? Est-ce que c'était visible, ton handicap?
Non, mais c'était quand même visible parce que j'avais une prothèse oculaire à gauche, puis mon œil droit... Dans le fond, quand j'ai fait de la radiothérapie, tout ça, ça a brûlé un peu les tissus. C'est que ma tempe droite est creusée un petit peu. Puis de l'autre côté, bien, c'était ma prothèse qui était comme plus ouverte, puis tout ça. C'est que ça paraissait que j'avais... Je regardais pas tout le temps, tu sais, dans les yeux les gens. C'est que ça paraissait. Puis aussi, bien, je viens d'une petite ville, donc tout le monde se connaît. C'est que...
Ah oui, OK. C'est surtout ça aussi.
Oui.
Puis t'avais un résidu visuel à ce moment-là, hein, que t'as pu...
Oui, exact. J'ai eu, je dirais, peut-être 4% de vision là, pendant une trentaine d'années.
OK.
Qui avait réussi à me sauver une partie de mon œil droit, une partie de vision. Puis j'ai vécu avec ça là, pendant 30-quelques années. Puis après ça, j'ai été me faire opérer pour une cataracte dans l'œil que je voyais, évidemment. Puis ça a fait l'effet contraire. Ça se pouvait me redonner de la vision. Mais là, petit à petit, je me suis mis à avoir des flashs.
Ça te l'a enlevé?
Oui. Je donnais mes cours de guitare, là, puis là, je commençais à... Là, je clignais les yeux, là, je commençais à moins voir là, les mains de mes élèves, puis je voyais des flashs de Kodak, comme puis là, ça a descendu jusqu'à aujourd'hui, là, qu'il n'y a plus de vision du tout.
Tu disais à ce moment-là que ce défi-là, parce que bon, il y a d'autres défis, là, mais au niveau de l'emploi... Est-ce qu'à ce moment-là, ça t'a comme découragé doublement? Tu t'es dit, ça va être encore plus dur. Comment t'as réagi à ça?
Je m'en ai comme pas vraiment aperçu parce que je voyais pas beaucoup. Donc, okay. J'avais déjà beaucoup de trucs. Puis, tu sais, toute ma vie, moi, je m'étais dit, si je perds ce résidu visuel-là, j'aurais plus le goût de continuer. C'est déjà assez dur comme ça. J'aurais plus le goût de vivre en...
De vivre tout court?
Ouais, tout court. Puis, c'est ça, on parle d'emploi aujourd'hui. Bien, quand j'ai commencé à perdre la vue, c'est là que j'ai commencé à avoir de... Puis, tu sais, j'avais tout le temps rêvé de travailler. J'ai eu des contrats. Les contrats se sont mis à rentrer. Là, je me suis mis à faire plein de trucs. Puis, finalement, comme ma vision descendait, le travail augmentait. Donc, j'ai dit, bon, mais j'ai toujours ça que j'ai voulu. Puis, j'ai jamais repensé à être down par cette situation-là. Tu sais, j'ai comme... tout eu ce que j'avais toujours souhaité, mais sans la vue, c'est spécial comment c'est arrivé.
Comme quoi, c'est fou l'emploi quand même, comment ça a un impact. Je pense que les gens qui ont peut-être pas d'handicap sous-estiment à quel point ça peut être un défi, puis c'est important.
Ben, on veut être comme tout le monde. Hein.
Ouais.
On veut On veut des conjoints dans nos vies. On veut, tu sais, certains, moi, c'était sûr que j'aurais pas d'enfants, mais à cause de ce que j'avais eu, la rétinoblastome, mes enfants avaient beaucoup de chances d'avoir ce que j'ai eu, 50 % des chances. Donc, moi, j'avais fait le choix très tôt de pas avoir d'enfants, mais, tu sais, je voulais une blonde, je voulais un travail, je voulais faire comme tout le monde, c'est ça, exact.
Comment t'as vécu ça, tu sais, quand... Là, je reviens, mettons, à quand t'es ado, tu prends conscience de cette différence-là encore plus parce que, bon, tes amis se font engager, pas toi. Comment tu l'as vécu? Comment t'as réagi à tout ça?
Tu sais, je veux dire, je l'ai vécu rough, mais en même temps, bon, c'était ça. C'est que je me suis... Ça m'a dit de choisir quelque chose que je pourrais faire dans la vie plus tard, tu sais. C'est que je me suis aligné, je me suis dit, bon, il faut que je travaille avec ma tête. Que les gens ne me font pas confiance sur des travails physiques, ben je vais essayer de me trouver quelque chose où est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie avec ma tête. T'sais. C'est que je me suis aligné vers la vente. C'est jamais ça convaincre. J'ai une grande gueule, puis jamais ça convaincre le monde. C'est que j'ai dit, bon, ben, c'est tout fait pour moi, ça, la vente. Fait que j'ai été... C'était le premier cours dans lequel j'ai été étudié là, après mon secondaire. Là. C'est sûr que quand je me suis allé dans la vente, après ça, j'ai voulu travailler là-dedans, puis ça n'a pas fonctionné. Encore là, les gens croyaient que c'était avec la vision qu'on vendait. Donc, c'est...
Alors que non, hein, honnêtement.
Ben, moi, dans mon cours, c'est pas ce qu'on m'apprenait. Le client a un besoin, c'est capable de bien cibler son besoin, puis de t'occuper de lui, puis de lui donner ce qu'il a de besoin. Ben, tu vas faire un client heureux, puis il va venir te voir, mais oui. c'est l'époque aussi, hein, les années 90.
Dans le fond, je comprends que t'as toujours été persévérant, t'as toujours une curiosité aussi par rapport à ce que tu faisais. Peut-être pour ça que tu portes autant de chapeaux, mais c'est quoi ton parcours, en fait? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que t'as fait, là.
Oui. Ben, j'ai plein de chapeaux, mais c'est pas c'était pas voulu, tu sais. C'est à force de me débrouiller dans tout ce que je savais faire qui a fait que j'ai porté plein de chapeaux au bout de la run. Mais en fait, j'ai été étudié en vente, ça n'a pas fonctionné. Donc là, je suis retourné à l'école, toujours en jouant de la guitare, jouant de la musique. J'ai rencontré des musiciens, là, je suis allé étudier pour devenir musicien de studio. Bon, là, ce travail-là a plus ou moins fonctionné aussi à cause de certains problèmes là, d'adaptation dans mon milieu là, pour aller voir ma clientèle et tout ça. Puis après ça, j'ai été embauché comme musicien. En fait, ça a toujours parti par la musique qui m'a ouvert plein de portes. J'ai été musicien scientiste historique. Au bout de tant d'années, bon, je suis tombé comme coordonnateur de deux sites historiques. J'ai donné des cours de musique dans une école. Au bout de la run, je suis devenu coordonnateur de l'école de musique. Tout a tout le temps découlé de la musique.
Tu penses-tu qu'il faut qu'on se prouve toujours plus quand on a un handicap?
Toujours, oui. C'est toujours ça. Puis t'as tout le temps le travail en double à faire.
Oui.
C'est parce que tu te mets cette pression-là souvent. Parce que des fois, je me demande si... parce que tu sais, t'es tellement habitué de te faire juger ou de te faire soit prendre un petit ou de te faire penser que les gens pensent que t'es pas capable de faire quelque chose. T'es habitué à ça, puis à un moment donné, tu vois juste ça, tu sais.
Ouais.
Puis des fois, je me demande, c'est quand que j'ai raison ou c'est quand que la personne... me pense incapable de faire quelque chose ou c'est quand que c'est moi qui pense que la personne pense ça, tu sais.
Oui, c'est comme maintenant, viens-tu qu'à s'imaginer que tout le monde s'imagine qu'on n'est pas capable de rien faire, fait que tu te mets une pression en quelque part aussi par rapport à ça.
C'est ça, t'es sur la défensive, puis tu te mets une pression, puis ça te porte... Mais, tu sais, aussi en même temps, quand quelqu'un te donne une chance, ben t'es reconnaissant de ça, puis tu veux pas décevoir. Tu te mets cette pression-là aussi de pas décevoir les employeurs.
Mais je pense que ça peut être une belle qualité comme employé, justement, que les employeurs voient pas assez ça, mais que il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, quand on a un handicap, on veut tellement avoir... Ben c'est tellement dur d'avoir un emploi qu'on veut le garder quand on en a un.
Ouais.
Puis on va se donner encore plus que les autres. Fait qu'au final, on va être probablement l'employé le plus efficace et le plus performant, malgré ce que les gens peuvent croire. Donc, tout le monde est gagnant d'engager quelqu'un qui a une situation d'handicap, tu sais, évidemment que c'est dans ses capacités, parce que bon, il y a quand même des choses. C'est comme t'aurais voulu être chauffeur de camion, on s'entend. Même si t'as beaucoup de volonté, puis tu te dis, j'ai pas de limite, il y en a quand même.
Oui.
Mais tu sais, on s'entend-tu que c'est vrai que justement, cette pression-là qu'on se met, qui peut être difficile ou lourde, mais ça reste que ça fait en sorte que le travail est solidement bien fait, là, tu sais.
Oui.
Fait que c'est dommage que les employeurs voient pas ça.
Oui, mais heureusement, il y en a. Bien, souvent, moi, c'est sûr, ceux-là qui m'ont fait confiance, ils l'ont pas regretté, puis je pense qu'ils m'ont fait ils savaient à quelque part, tu sais. Ou il y en a, tu sais, comme au début, les premiers emplois que j'ai eus, je me suis engagé comme musicien sur un site historique, puis après ça, de fil en aiguille, bon, le coordonnateur que j'avais à l'époque m'a donné du lousse pour que je puisse prendre des initiatives, puis tout ça. Puis bon, ben lui, c'est ça, c'était par un programme, tu sais, que j'avais été engagé sur ce travail-là. Puis c'est pas lui qui m'avait nécessairement choisi, sauf que par après, dans d'autres situations, c'est lui qui est venu défendre cet aspect-là, que les personnes handicapées, c'est des gens qui se donnent,
C'est ça.
Qui se vouent à l'entreprise, puis qui veulent que ça fonctionne, puis qui mettent plus de temps que les autres, puis qui sont plus sérieux.
Je voudrais savoir comment t'as fait pour... Je vais dire, garder confiance en toi. Est-ce que ça a joué sur ta confiance? Tu sais, ces difficultés-là, puis le moment où tu ressens que t'es un petit peu, je vais dire, mis de côté par rapport aux autres, comment tu fais pour avoir confiance en toi avec tout ça?
Je pense que c'est de garder un objectif. C'est moi, j'ai toujours eu confiance en moi. T'sais. Si je me faisais pas engager, c'était pas de ma faute. T'sais. C'était les employeurs qui étaient pas capables de voir mes capacités, dans le fond. Mm. Ça fait que j'ai toujours resté mindé là-dessus, puis de vouloir faire quelque chose de ma vie. Mais à un moment donné, à force de prendre des initiatives, quand j'ai travaillé sur les sites historiques comme ça, aussi, ça m'a donné confiance en moi, tu sais. On m'a laissé aller là-dedans, puis on m'a laissé des tâches. À un moment donné, je suis devenu formateur des autres animateurs, puis tout ça. Puis c'est à force de prendre des petites tâches comme ça que tu prends confiance. Ça, c'est un travail saisonnier, ça. C'est que, dans le fond, j'ai commencé à prendre des contrats un peu partout. Puis qu'à un moment donné, je suis devenu mon propre patron. T'sais, si personne veut m'engager, à un moment donné, j'ai dit, bon, bien, ça va être moi qui vais engager le monde, tu sais.
Hmm.
C'est que c'est comme ça que tout a démarré quelque part.
Bien, c'est le genre de choses qu'on aurait tendance à se dire facilement, mais qui est peut-être pas si facile à faire. C'est quand même un pari risqué.
Bien, c'est... dans le fond, t'as rien à perdre. Tu sais, au départ, j'avais des attentes. Je pense que c'est ça le truc, là. C'est les attentes, là, j'ai été cassé au début, là. La vente, là, ça m'a cassé. Mais après ça, petit à petit, j'ai appris à pas avoir d'attentes. Je pense qu'après ça, ça m'a suivi même personnellement autant que professionnellement.
Qu'est-ce que c'est?
Quand t'as pas d'attente, tu peux pas être déçu. Donc, quand il y a des choses qui arrivent, je suis reconnaissant, puis je travaille là-dedans. Puis après ça, ben mais je me garde toujours des projets. J'ai toujours des projets d'avance de prévu, tu sais. S'il arrive quelque chose,
ouais.
Je perds un emploi, je perds un contrat, mais tu sais, en même temps, j'ai plein de chapeaux. Mais ce qui fait que si j'en perds un, ben il m'en reste. Tu sais, c'est que c'est un peu ça mon parcours, dans le fond.
Mais c'est comme si tu as toujours besoin d'avoir un plan B, finalement, parce que tu sais jamais si ton plan A va fonctionner. Parce que la vie t'a prouvé que souvent, ça fonctionnait pas.
C'est ça, exact. Au début, j'étais tellement sûr de moi que là, après ça, avec l'âge, là, je me suis rendu compte que non. Tu sais, on prend rien pour acquis.
Ouais.
On se fait pas d'attente, puis on continue. Tu sais, c'est d'avoir une vision finale. Moi, ma vision, c'est pas compliqué. C'est d'être bien, puis d'être capable de gagner ma vie avec les capacités que j'ai.
L'entourage est... Je pense qu'il est pour beaucoup aussi, là. Ça fait longtemps que tu es avec ta blonde.
Oui.
18 ans?
Oui.
Que tu m'as dit?
Oui.
Quel impact ça a eu dans ton parcours, ça, cette relation-là que tu as avec ta blonde?
Quand je l'ai rencontrée, je voulais plus... je voulais plus être en couple.
OK.
J'étais très convaincu que finalement, je voulais être seul. Parce que j'avais eu des blondes avant, puis ça me mettait ça aussi une pression sociale, tu sais. Mm. Quand tu arrives d'un party de famille, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va. Pauvre elle, qu'est-ce qu'elle fait avec lui, tu sais. C'était un peu le sentiment que je ressentais, c'est que j'étais tanné de ça. Quand je l'ai rencontré, ben j'ai pas senti cette pression-là. Puis. Mais elle veut pas, tu sais, t'es en couple, bon, faut que tu fasses quelque chose aussi, tu sais. Faut que.
Oui.
Si c'est de rendre l'autre. Rendre l'autre fier, tu sais, puis d'être capable de réaliser, tu sais, d'équivaloir à n'importe qui dans la vie, tu sais.
Tu sens-tu qu'il est fier? Tu sens-tu qu'il est fier, ta blonde?
Oui. Oh, oui.
C'est important, ça. Je pense que c'est justement l'importance de l'entourage, tu sais, que d'être encouragé. Tu sais, quand tu as eu des moments plus difficiles, j'imagine qu'elle était là pour toi, que tu l'as ressenti.
Oui.
Ça a dû t'aider à ne pas te décourager aussi dans certains moments.
Oui. Oh, oui. Quand ça a été nécessaire, puis je suis sûr que ce sera encore de même, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de drop, là. Ça va bien depuis un bon bout de temps. Mais, tu sais, je sais qu'elle sera encore là, tu sais, je dirais, oui. Près de 18 ans, tu sais, c'est ma meilleure chum, c'est personne d'aussi proche de moi qu'elle, tu sais, c'est que... Non, c'est sûr que ça donne un bon coup de main d'avoir quelqu'un de... Bien, tu sais, en même temps, c'est sûr, mais c'est la même chose de l'autre côté, tu sais.
Hey, ben oui, puis ça, tu sais, ça, on s'en est déjà parlé, nous, toi puis moi, que comment nos conjoints sont donc formidables d'être avec nous, parce que...
Ah, moi, je sors avec Mère Thérésa, hein.
C'est ça, exact, tu sais. Puis moi, mon chum, il est donc génial d'accepter d'être avec une fille malade, mais jamais... Jamais on va y dire qu'il est chanceux d'être avec moi. C'est toujours moi qui est chanceuse d'être avec lui. Oui. Ça, c'est...
Ah oh, oui, on m'a déjà dit, ben non, mais c'est, ta blonde est vraiment hot, tu sais. Pourquoi? Ben parce que c'est quand même pas normal comme...
Oui.
Comme relation.
Comme si tout s'y apporte rien, dans
c'est
le fond.
Ça, exact.
Oui, ça, je pense qu'il y a bien des gens qui vont se reconnaître dans ce qu'on dit là. Oui. C'est pas toujours facile pour la confiance. Fait que ça ajoute comme un défi, tu sais. Tu m'as dit que à la base, tu voulais t'en aller en vente. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quand tu regardes le parcours que tu as fait depuis, est-ce que c'est quelque chose que tu pensais que tu ferais? Est-ce que tu es heureux de ça aujourd'hui?
Oui. Oui, parce que, ben en fait, je voulais m'en aller en vente et représenter, vente, détail, whatever. Mais je vends aujourd'hui tous les jours. Mm. Tu sais, je me suis servi de ça pour me trouver ce que j'ai aujourd'hui. La formation que j'ai eue en vente, ça a été la base de tout ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, la musique est encore là. Je vends maintenant. Je suis dans l'organisation d'événements. Donc, il faut que je vende mon projet à des commanditaires. C'est que ça me sert aujourd'hui. Puis si je suis content... Même si je voulais m'en aller dans la vente au début, je pensais pas je pensais pas être rendu où ce que je suis rendu aujourd'hui. Je suis même capable de prendre des vacances aujourd'hui. C'est que j'aurais pas pensé ça un jour.
Fait que t'es bien.
Oui, vraiment.
Ben merci, Étienne. Merci d'être venu me parler de ton beau parcours. Puis j'espère que ça va donner espoir à bien des gens qui en arrachent peut-être présentement.
Oui, c'est le but. C'est de garder le cap puis de rester motivé, de faire pas l'autre, puis pas d'attente surtout.
Oui, mais c'est un bon conseil. Moi aussi, j'applique beaucoup ça. Merci.
Plaisir.
Pour découvrir les autres émissions d'Ami Télé, rendez-vous sur amiplus.ca. C'était Je sais pas comment tu fais. Recherche et animation, Audrey Metcalf. Invité, Étienne Gravel. Réalisation, Raphaël Mercier. Une production Ami Télé 2024.